se trouve dans l'épître de Pierre. C'est adressé aux chrétiens dispersés. Nous lisons dans le premier épître de Pierre, chapitre 1, les versets 3 à 9. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle, en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante, en entendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut être ni détruit, ni sali. Il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux, à vous, que sa puissance garde par la foi, en vue du salut, prêt à être révélé au moment de la fin. Débordé de joie, même s'il faut que maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes. Alors, lui-même, qui pourrait être détruit, s'est pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Vous l'aimez, même sans le voir lui. Vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Amen.
La deuxième lecture est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24, les versets 13 à 35. Ce même jour, c'est-à-dire le jour de la découverte du tombeau vide, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs. Ce village se trouvait à environ 11 kilomètres de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas les événements qui se sont passés ces derniers jours ?»« Quels événements ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses œuvres et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et de nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils arrivèrent près du village où ils se rendèrent, Jésus fait comme s'il voulait aller plus loin. Mais ils le retinrent en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons, qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu !» Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompait le pain. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen.
Mon bon collègue François Bevon disait et a écrit dans le commentaire qu'il a fait de l'évangile de Luc, mais pourquoi est-ce que ce ne serait pas Monsieur et Madame Cléopas, ces deux pèlerins? Mais c'est une très bonne idée. Je pense qu'en effet, ces deux pèlerins d'Emmaüs faisaient partie de tous ces gens que Jésus a rencontrés, tous ces gens qui étaient fascinés par Jésus et que, par exemple, ils se sont retrouvés, Cléopas et sa femme, sur le pré au bord du lac de Tibériade, écoutant Jésus qui parlait depuis sa barque. Et ces deux avaient sans doute bénéficié de cet extraordinaire miracle que Jésus avait fait quand il avait demandé à ses disciples, mais donnez-leur vous-même à manger, et qu'ils n'avaient que 3 pains, il a rompu le pain et chacun a pu en avoir à satiété. J'imagine qu'il faisait partie de ces foules. Il faisait partie de ces foules car il faut bien se souvenir qui était Jésus pour l'ensemble des Juifs de son temps qu'il a rencontrés. Il s'adressait à tout le monde. Il y avait d'autres secteurs du judaïsme, comme les pharisiens, comme les gens de Qumran, qui étaient des gens tout à fait bien, mais qui avaient des prescriptions particulières. C'était un peu, ça n'a pas de sens péjoratif dans ma bouche, des puritains, mais lui, Jésus, s'intéressait à tous, à vous tous, à moi, sans qu'on ait besoin d'être des athlètes de la foi. Et ils avaient vu cet homme extraordinaire qui guérissait, qui parlait un langage possible à comprendre, un homme qui leur annonçait un Dieu qui les aimait, qui s'intéressait à eux et qui avait un message, Jésus, de paix, mais aussi de justice, de choses qui étaient bonnes, et qui était pour eux. Ça, c'est le Jésus qu'ils ont connu, n'est-ce pas? Nous avons une autre connaissance de Dieu, de Jésus, bien entendu, après la Pentecôte, mais c'était ça l'important pour eux. C'était celui qui les comprenait, qui les suivait, qui les guérissait, qui les aimait, tout simplement. Et ils ont vu la mort de ce Jésus qu'ils aimaient eux aussi. La plus ignoble, la plus atroce, c'est connu dans l'Empire romain, la torture, l'exécution la plus effroyable, c'était bien la crucifixion. Et ils ont vu ce crucifié qui était en quelque sorte non seulement tué, mais avili sur cette croix, et on peut bien imaginer les raisons pour lesquelles ils regardaient par terre en allant chez eux, en rentrant à Emmaüs. Ils étaient tristes, comme on est triste quand quelque chose qu'on a espéré s'avère ne pas arriver. Ils étaient tristes parce qu'ils avaient l'impression qu'enfin on les avait compris, qu'on les avait aimés, qu'on les avait soignés, et il n'y avait plus rien. Et on peut vraiment comprendre leur désarroi. C'était fini. comme ça nous arrive quand quelque chose a raté dans nos existences, de se dire « bon ben c'est fini, quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Et Jésus a bien vu le désarroi de ces deux, de monsieur et madame Cléopas. Et il s'est dit « il y a deux choses qu'il faut que je leur montre. D'abord, il faut que je leur donne un enseignement. » Alors, je ne sais pas très bien, Jésus n'avait pas la Bible en français courant ou en araméen courant, mais il a pu faire une espèce d'extraordinaire leçon d'exégète, montrant à travers Moïse, c'est-à-dire les livres du Pentateuque, et ensuite les prophètes, tout ce qui le concernait lui, et tout ce qui montre, dans les prophètes en particulier, qu'il devait mourir pour accomplir la tâche que Dieu lui avait conférée. Et il a donné vraiment un enseignement là. On aurait bien voulu être là, cette leçon de religion, car vraiment ça devait être tout à fait limpide. Et les autres écoutaient, et ils ne comprenaient pas très bien qui était ce type-là qui leur parlait. Ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose, c'est la fin du récit qui nous le montre, qu'il y avait quelque chose qui en eux les chauffait, leur donnait quelque chose, une espèce de sentiment de sans doute de force, d'intelligence. Et puis on arrive au soir, on était près de l'endroit où Cléopas et sa femme avaient leur maison. Et Jésus voulait poursuivre sa route, il avait fait sa leçon et les deux lui disent, mais non, viens, le soir décline, entre chez nous. C'était l'hospitalité de l'époque où on recevait les gens au moment où la nuit tombait pour éviter de mauvaises rencontres. Et là, eh bien, on peut imaginer qu'ils ont préparé le repas et il y avait bien sûr du pain qui était l'essentiel de la nourriture pour tout le monde à cette époque. Et ils ont vu Jésus qui brisait le pain. Et je pense qu'ils se sont dit, ah, mais c'est celui qui nous a nourris. C'est celui qui abondamment nous a donné à manger quand nous étions au bord du lac de Tibériade, c'est lui. C'est ce geste qui, en plus de la leçon qu'ils avaient reçue, c'est ce geste qui leur a ouvert les yeux. Ils se sont dit, ça c'est un geste que nous connaissons. C'est le geste de l'amour, c'est le geste qui donne de manière infinie, puisqu'il y avait des pains en telle quantité qu'on a pu en remplir 12 couffins, d'après le texte de l'Évangile. Et je trouve extraordinaire que tout à coup ce geste, qui venait après cette longue explication biblique, ce geste leur décile les yeux. Ils se sont dit « oui, c'est lui ». Et Jésus a disparu. Jésus a disparu parce que il devait, il le savait, Jésus, monter auprès du Père. Et il savait qu'un autre viendrait pour accompagner monsieur et madame Cléopas. C'est le Saint-Esprit, c'est son esprit. Et je trouve que j'aime bien ce passage parce que il nous montre que Jésus s'est révélé dans un discours, certes, mais dans un geste d'amour, un geste de partage, un geste de justice aussi, puisqu'il y en a pour tout le monde. Et que je trouve que nous sommes au bénéfice, nous aussi, de ce geste, de ce pain qui nous est donné. Bien sûr, nous en avons le symbole dans la Sainte Cène, mais c'est autre chose. Là, je voudrais qu'on prenne bien conscience que Jésus nous donne ce dont nous avons besoin. Et si l'on revient à la situation que j'évoquais tout à l'heure, où nous sommes parfois déprimés parce que ce que nous avons espéré s'est avéré vain, je pense que là, tout à coup, Jésus montre à ces deux êtres que non, tout n'est pas vain, que tout n'est pas fichu, qu'il y a une vie, Et c'est ça qui est très fort, pour nous aussi. Quand nous sommes fatigués, chargés, il y a une vie. Nous ne sommes jamais seuls. C'est important. Et cette vie, elle est celle que nous donne celui qui nous aime. Et il fallait en effet que les méchants éreintent le corps de Jésus, le tuent, pour que cette vie, comme la liturgie le disait, cette vie ne meure plus. C'est important donc de se mettre à la place de ceux qui tout à coup voient Jésus, alors qu'ils sont vraiment pas bien, qu'ils ont l'impression qu'ils ont tout perdu. Nous n'avons jamais tout perdu, jamais, 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 parce qu'il y est toujours présent, il est présent. Il n'y a pas de doute, et c'est sa nature même, si j'ose dire, qui est de donner toujours quelque chose pour que nous vivions. Même si on est vieux, même si on est jeune, tous et tous, nous sommes conçus pour recevoir ce que Jésus a à nous donner. Et Jésus, eh ben, c'est le Fils de Dieu, c'est notre Dieu, c'est finalement, nous n'avons pas d'autre Dieu qu'un Dieu qui est, comme le dit l'évangile de Jean, mais bien d'autres personnes aussi dans la Bible, qui est amour. Cette formule « Dieu est amour » est un peu stéréotypée, elle est un tout petit peu abstraite. Mais là, c'est celui qui donne du pain. C'est celui qui vient quand nous ne sommes pas bien. C'est aussi celui qui vient quand nous sommes mieux pour nous inciter à aller plus loin. Je connaissais quelqu'un qui avait des très grosses responsabilités, même énormes, qui avait plusieurs milliers de gens sous ses ordres. C'était une immense entreprise qui était un homme charmant et qui disait toujours aux gens que quand ils passaient dans les ateliers, il leur disait « Bravo, merci, continuez ». Il les félicitait, il les encourageait et il leur disait qu'ils devaient aller de l'avant. Nous sommes dans cette situation. Jésus nous dit bravo, parce que nous sommes là, ici, ce matin, dans ce temple. Il nous dit merci, parce que nous le recevons. Et il nous dit continuez. C'est quelque chose de très fort, car avec les pèlerins d'Emmaüs, avec monsieur et madame Clopas, nous sommes, nous aussi, des disciples qui voyons, avec les yeux de la foi, bien sûr, un Jésus qui tend la main, qui console, qui fait vivre. Amen.